L'économie avec ce chiffre inquiétant.
L'économie.
La croissance qui est plutôt molle.
L'économie.
On va changer complètement de sujet, Nathalie. Avec, rappelez-vous, en 2004, on apprenait que les poupées Ken et Barbie allaient divorcer après 43 ans de vie commune sur décision
de Mattel.
Potu Info, un autre regard sur l'actualité.
Ici Radio Potu.
Potu Info, un autre regard sur l'actualité.
Vous êtes bien sur Radio Potu 107.5. Salut Laurent.
Salut Olivier.
Et pendant une heure, on va vous faire l'information, un autre regard sur l'actualité, un petit peu une autre manière de faire l'information par rapport aux grands médias, aux grands journaux. Mais en fait, pas tant que ça. On va faire ici une information subjective. Alors la différence avec les grands médias, c'est qu'elle est assumée. Parce qu'on estime que l'objectivisme dans les journalistes aujourd'hui n'existe pas. Personne n'est capable de se placer au-dessus du monde et de relater faits sans... C'est déjà rien que dans le choix de l'information et dans les mots employés, il y a une part de subjectivisme ou de subjectivité.
Subjectivité, on rappelle qu'en fait, quand un journaliste dit qu'il est objectif, ça veut dire qu'en fait, il suit le modèle dominant. Donc en gros, la société libérale et capitaliste. Donc voilà, quand il respecte ces codes-là, on dit qu'il est objectif. Et puis les gens qui ne respectent pas ce modèle dominant deviennent subjectifs. Donc nous, on va prôner et assumer notre subjectivité.
Voilà, donc ça va durer une heure, ces informations, à 15h, donc aujourd'hui, et durant les trois jours d'émission de Radio Potu. Chaque jour, donc, il y aura des petites brèves. Et chaque jour, il y aura un dossier. Par exemple, demain, on fera un gros dossier sur l'énergie. Enfin, c'est Laurent qui s'en charge. Et aujourd'hui, le gros dossier avec lequel on va commencer, c'est un dossier sur le Moyen-Orient.
Oui, tout à fait, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé pas mal de choses entre Israël et la Palestine. Alors d'ores et déjà, on va dire Palestine dans ce Potu Info, alors que l'État palestinien n'existe pas, il y a juste une autorité palestinienne et un parlement. Mais on va faire comme si ça existait déjà, puisque c'est censé exister déjà. Lors de la création de l'État d'Israël en 1948, la résolution de l'ONU qui crée l'État d'Israël dit qu'il doit y avoir deux entités, une entité dite juive et une entité dite arabe avec Jérusalem comme capitale pour les deux. Alors bien sûr, cette résolution ne sera jamais vraiment mise en place. Il y aura bien création de l'État d'Israël. Et par contre, il n'y aura pas de création d'État palestinien. Mais on va quand même utiliser le mot Palestine. Alors, tout ce qui se passe en ce moment, notamment les actions militaires, sont la suite de l'enlèvement de ce fameux soldat qui s'appelle Gilad Shalit, qui a été donc enlevé par un groupe armé résistant palestinien il y a une dizaine de jours. Israël a réagi à travers son premier ministre et son armée de manière très rapide et très violente. Donc depuis, se passent beaucoup de combats, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Donc je vous rappelle pour mémoire que la Palestine est partagée en deux pays séparés au milieu par l'État d'Israël, la bande de Gaza, qui est la zone la plus peuplée en densité, la plus forte densité au monde, et puis de l'autre côté, la Cisjordanie. Donc l'armée israélienne s'est retirée de la bande de Gaza il y a quelques mois, mais elle y est retournée. Alors pour prendre les infos du jour, on peut dire qu'il y a une réintroduction de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. L'objectif affiché de l'armée israélienne, c'est de faire une zone tampon, occupée donc par l'armée israélienne et par les Palestiniens. On sait pourquoi ils font ça, c'est qu'ils ont toujours peur des tirs de roquettes que fait la résistance palestinienne, et qui roquettes qui peuvent atteindre certaines fois certaines villes d'Israël. Donc ça serait la raison pour laquelle Israël serait réimplanté dans le nord de la bande de Gaza. Pour revenir sur les actions de ces derniers jours, les ravisseurs de Gilad Shalit ont annoncé qu'ils ne tueraient pas a priori leur otage. Alors ils avaient donné un ultimatum qui devait être mardi soir, et l'ultimatum c'était on échange notre otage contre 1500 prisonniers palestiniens retenus en Israël, dans les prisons israéliennes. L'ultimatum est passé, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu a priori ni d'action négative contre ce soldat prisonnier, ni contre qui que ce soit. On est toujours dans une phase d'attente, même si le Premier ministre israélien, donc Ehud Olmert, a déclaré que de toute façon, il était hors de question de céder au chantage et que l'enlèvement n'était pas un outil de toute façon pour mettre à genoux Israël. Alors on va revenir quand même sur ce que c'est que cet enlèvement et ce que ça peut représenter et pourquoi on parle d'un enlèvement dans ce cadre-là. Alors la définition d'otage dans le dictionnaire, on trouve personne détenue comme gage de l'exécution d'un traité, de la soumission d'une population, personne utilisée comme moyen de pression. Alors effectivement, si on suit cette définition, l'otage Gilad Shalit en est vraiment un. Par contre, on peut se poser la question sur les plus de 600 Palestiniens qui ont été enlevés par l'armée israélienne, qui sont détenus, on ne sait pas bien où, dans quelques prisons israéliennes, en dehors de tout système juridique, puisqu'ils n'ont pas de motif d'accusation, ils n'ont pas de procès, ils n'ont rien. Donc en fait, si on se place sur la définition classique du terme d'otage, ces 600, un peu plus de 600 Palestiniens sont aussi des otages et sont des otages aux mains des Israéliens. Il faut savoir quand même qu'il y a en tout à peu près 8000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, mais qu'en général il y a quand même des procès, des condamnations d'une justice qui est assez expéditive, mais il y a quand même 600 vrais otages qui ont été enlevés souvent pour faire pression eux aussi sur la résistance palestinienne. Donc voilà, l'information est très décalée, on nous parle essentiellement de cet otage israélien, et il faut remettre un peu dans la perspective de ce conflit où il y a quand même beaucoup d'otages aussi de l'autre côté. Alors, l'intervention de ces derniers jours a quand même fait, si on fait le bilan à 15h, 11 morts du côté palestinien, 11 morts et pas mal de blessés, des destructions un peu relativement importantes. D'abord, il y a eu des attaques contre le ministère de l'Intérieur. Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu une mercredi soir notamment, donc contre le ministère palestinien de l'Intérieur dans la bande de Gaza. Donc, une vraie attaque du gouvernement palestinien par l'armée israélienne. Alors, on rappelle que dans les gens qui ont été enlevés par l'armée israélienne ces derniers jours, il y a un tiers du gouvernement du gouvernement palestinien qui a été enlevé. Donc voilà. Et puis, on a un membre des martyrs des brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui a été assassiné, ça c'était mercredi soir, par l'armée israélienne près de Jéricho en Cisjordanie. Durant la nuit, il y a eu des tirs de missiles israéliens toujours sur la bande de Gaza, donc entre mercredi et jeudi, donc cette nuit. Et donc voilà où on en est. Alors la question à se poser maintenant, c'est... Est-ce qu'il y a des réactions internationales et quelles sont les perspectives ? Alors, la réaction internationale, il y en a eu quelques-unes, pas beaucoup. Souvent, les réactions sont très mitigées ou très calmes ou très, très posées parce qu'on ne se fâche surtout pas avec l'ami israélien. Alors, l'Europe, on sait qu'il y a une espèce de culpabilité par rapport à ce qu'a pu faire l'Europe en 1945, et puis entre 1939 et 1945. Et puis, il y a du côté de la plus grosse puissance actuelle que sont les États-Unis. Là, c'est un vrai soutien, puisque ce sont leurs amis, on va dire. Une des raisons, si vous n'étiez pas né en 1948, mais une des raisons de la création de l'État d'Israël à cet endroit-là, puisqu'il y avait quand même pas mal de pourparlers pour créer un État dit juif, mais peut-être ailleurs dans le monde, une des raisons de la création de l'État d'Israël à cet endroit-là, c'est de créer une enclave occidentale dans le Moyen-Orient afin d'imposer notre vision du monde. Alors ça a marché plus ou moins bien. Mais bon, ce qui fait qu'il y a assez peu de réactions. Une réaction du G8 la semaine dernière qui demande que la paix revienne. Donc ça va pas très loin. La Suisse a réagi hier en faisant un communiqué officiel rappelant que Israël avait violé les règles humanitaires en infligeant une punition collective aux Palestiniens. On vous rappelle, dans les règles de la guerre qui sont régies par ce qu'on appelle les conventions de Genève, on n'a pas le droit de faire de réponse collective, on n'a pas le droit en théorie d'attaquer les civils, d'attaquer les familles, de détruire les maisons, enfin tout un tas de choses qu'Israël ne respecte pas. Le communiqué officiel suisse rappelle aussi que la destruction de la centrale électrique la semaine dernière, le tir sur l'université, ne correspondent pas à des actes de guerre classiques et sont eux aussi contraires aux règles de la guerre. Alors bon, ces règles de la guerre, bien sûr, c'est toujours un petit peu joli, parce que quand on fait la guerre, finalement, il n'y a plus beaucoup de règles. Mais il y a quand même quelques conventions qu'un État dit démocratique est censé respecter. Alors la démocratie en Israël, c'est une vision un petit peu particulière de la démocratie, puisque si vous êtes, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les membres du gouvernement élus depuis la création de l'État d'Israël sont des anciens militaires. Donc en fait, c'est une démocratie dirigée par des militaires. Donc c'est un petit peu bizarre comme démocratie. Donc ça, c'est la première réaction dite occidentale. Par contre, il y a des réactions sur place, et c'est là où c'est un petit peu intéressant, parce qu'on présente souvent l'État d'Israël comme un État qui fait bloc pour avoir toujours plus de colonies contre les Palestiniens. Ben, c'est pas vrai. À l'intérieur même d'Israël, il y a pas mal de résistance. Alors notamment un groupe de jeunes et de moins jeunes qui refusent de faire la guerre. On les appelle les refuseniks. Alors ils seraient actuellement 630 en Israël. Alors quand on est refuseniks, c'est qu'on dit qu'on veut pas aller se battre, on veut pas faire le service militaire, on est incarcéré comme nous à l'époque où le service était obligatoire en France, c'est un petit peu pareil. Sauf que là-bas, le traitement est un petit peu plus difficile et que surtout, il y a une condamnation quand même, au moins des gros médias israéliens, de ces jeunes refuseniks qui sont souvent qualifiés de traîtres. Donc ça va quand même assez loin. Et alors les refuseniks ont fait un communiqué et ils appellent les soldats israéliens à refuser de bombarder Gaza, refuser de s'engager dans cette offensive meurtrière engagée depuis une dizaine de jours. Et puis toujours au sein même d'Israël, des réactions notamment du parti communiste israélien, qui n'est pas une force très importante maintenant en Israël, mais qui se fait quand même entendre. Ils rappellent qu'eux, ils sont pour l'arrêt total de cette offensive sur la bande de Gaza. Ils se positionnent aussi sur la colonisation, puisqu'ils disent qu'il faut arrêter la colonisation et rendre toutes les colonies à la Palestine. Donc voilà. Et puis il rappelle que ces dernières semaines, l'armée de leur pays, l'armée israélienne, a assassiné des douzaines de Palestiniens, dont des enfants. Donc voilà, réaction au sein même de l'État d'Israël sur tout ça. Alors, pour refaire un petit historique sur cette montée en puissance, remontée en puissance de cette guerre, tout était parti il y a 3 ans lorsque Ariel Sharon était allé devant les mosquées à Jérusalem et ce qui avait lancé donc une réaction des Palestiniens et lancé la deuxième intifada. Suite à ça, on avait eu une montée de la violence et c'était un petit peu retombé il y a à peu près un an, où ça allait un petit peu mieux, on va dire. Et puis est arrivée une chose qui était assez prévisible, des élections. Et puis ces élections amènent au pouvoir le Hamas. Alors il faut resituer un petit peu les choses, parce qu'en Europe, on a tendance à beaucoup attaquer le Hamas. Donc le Hamas est un parti islamique et c'est pour cette raison qu'on attaque le Hamas. Alors sur le côté religieux, le Hamas est forcément assez peu défendable, notamment sur le droit des femmes, enfin, il y a de nets reculs, mais c'est pas du tout sur ce critère-là que le Hamas gagne des élections, a été élu. C'est que c'est le seul qui propose une alternative intéressante à l'occupation israélienne. Toutes les années précédant l'arrivée du Hamas, c'était Yasser Arafat qui dirigeait l'autorité palestinienne et son parti, donc issu de l'OLP, enfin du Fatah, etc., ces groupes qui avaient fait la résistance palestinienne de manière un peu historique et traditionnelle. Et Yasser Arafat a beaucoup négocié avec les Israéliens pour essayer de faire la paix. Et vis-à-vis des Palestiniens, il a beaucoup trop négocié. Et toutes ces négociations ont fait que finalement, Israël n'a jamais reculé dans les différents accords de paix. Et les Palestiniens ont beaucoup reculé, et ce qui fait que la population, à force de faire des concessions et de rien avoir en retour, s'est sentie très déçue de cette manière de négocier. Et elle s'est dit, finalement, la négociation, c'est toujours à nos dépens. Il y a peut-être une autre moyen de faire, c'est la résistance. La résistance, elle est tenue par des groupes islamiques avant tout en Palestine, mais pas que. Il y a aussi des gens proches du Fatah qui sont dans la résistance armée notamment. Et donc la population s'est naturellement tournée vers le Hamas parce qu'ils prônent une résistance une vraie résistance face à l'État israélien. Il demande une décolonisation totale de la Palestine et enfin, de la Cisjordanie. Il demande le retour de ceux qui sont partis de Palestine depuis 1948, le droit de revenir sur leur terre, chose que Yasser Arafat avait un peu abandonné. Alors ça, c'est la première raison de la victoire du Hamas, qui en fait une victoire de toute façon respectable au niveau démocratie. Et puis la deuxième victoire, la deuxième raison, bah, c'est que sur le terrain, quand on va là-bas, on se rend compte que le seul groupe politique qui fait des choses au niveau social, qui fait des choses au niveau éducation, c'est le Hamas. Le Fatah et toutes les différentes organisations qui gravitent autour ont été au pouvoir et ont un peu lâché leur implantation au niveau de la population, ont lâché les actions sociales, et ce qui fait qu'effectivement, tout naturellement, une grande partie des Palestiniens ont voté pour le Hamas, et c'est pas forcément donc pour des raisons religieuses. Hein, on a tendance à associer le Hamas à ce qui se passe en Iran, à tous ces islamistes. C'est pas du tout ça qui a justifié, qui a entraîné le vote des Palestiniens pour ce parti. Donc on relativise bien. Ils ont sûrement plein de défauts, mais ils sont là pour une bonne raison, c'est qu'ils font de la vraie résistance. Et voilà. Alors après, ça aura sûrement des conséquences négatives, et ça en a déjà, puisque toute l'Union européenne, toute la communauté internationale a condamné cette élection au nom de je ne sais quelle idée, l'image qu'on peut se faire de la démocratie, puisque voilà, l'élection n'était pas du tout entachée d'erreurs, elle a été bien contrôlée, et tout le monde a dit que c'était une élection juste, ce qui n'a pas lieu dans tous les pays, hein, même chez nous, on a des doutes des fois. Mais par contre, le gouvernement est condamné unanimement, et ce qui fait qu'il est face à une situation beaucoup plus difficile que n'avaient eu à supporter les gouvernements précédents, notamment les gouvernements de Yasser Arafat. Et puis je voulais donner une dernière news quand même sur cette partie israélo-palestinienne, parce qu'il faut quand même savoir que celui qui était au pouvoir avant l'arrivée d'Ehud Olmert, c'était
Ariel Sharon.
Eh bien oui, et on se demande, mais que devient Ariel Sharon ? Eh bien, il ressemble à une espèce de légume dans un hôpital tout blanc, puisqu'il est toujours dans le coma depuis des mois et des mois, que ses chances de sortir du coma sont très très faibles, et que voilà, alors il n'est pas enterré, il n'est pas encore officiellement mort, mais il y a un petit acharnement thérapeutique comme on sait faire dans les pays occidentaux.
On peut se poser la question s'il était pour ou contre l'euthanasie.
C'est vrai, en tout cas pour l'instant, il est maintenu donc en vie de manière artificielle, une vie totalement végétative. Donc voilà pour les infos sur cette partie du bout du monde, mais on va revenir, je crois, juste après.
Alors, ouais, merci Laurent. Alors, il faut quand même qu'on explique à nos auditeurs qu'on avait inauguré avec ces Potu Info le studio extérieur de Radio Potu, et malheureusement, les nuages ont ramené la pluie, donc on va chambouler un petit peu, quelque peu, les programmes tout en restant dans la colonisation, mais cette fois dans la colonisation française, avec un petit mix réalisé à partir de diverses interviews, des comédiens, des chanteurs et des gens de la communauté civile française qui réagissent. Alors c'est un peu décousu, on va parler du chikungunya, on va parler de cette fameuse loi du 23 février 2005 qui incitait les professeurs de l'éducation nationale à présenter la colonisation sous un jour positif. Donc, mais vous allez vous y retrouver, voilà, petit e-mix Gration sur Radio Potu. Et reviens après avec les Potu Info.
Moi, je suis né après la colonisation.
Nicolas Lambert, comédien, auteur de la pièce Elf, la pompe afrique.
Et on m'a jamais appris rien sur la colonisation. On m'a juste appris, un jour, il y a la décolonisation, point. Ah bon, ouais. Bon, très bien. Ce qui a été toujours surprenant, c'est quand je voyais les vieilles cartes où on voyait le continent africain et des tas de flèches qui partaient vers la France en voyant, hop, phosphate, une flèche, hop, arachide, une autre flèche, hop, viande, une autre flèche, hop, pétrole, une autre flèche, hop, uranium. Bon, je ne me posais pas plus de questions que ça. Il se trouve que ces pays, ce continent, est très riche. Et si ces populations sont très pauvres, c'est parce que nous, Français, sommes très riches, notamment. Il y a d'autres pays qui ont leur part de responsabilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma part. Il y a le fameux serment que doivent prêter les médecins au départ. C'est d'abord ne pas nuire. Et ben, nous, il serait très bon de ne pas nuire. On en a marre, le peuple
en a marre. Après l'abolition de l'esclavage, ils Ils ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération pour monter dans cette situation. Ils ont créé la mondialisation et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a va.
Je fais partie des indigènes. Ce qu'on peut préciser, que c'est peut-être que je suis réunionnaise.
Laetitia, membre du collectif Les Indigènes de la République.
Que je milite aux Jeunesses Communistes Révolutionnaires.
Je suis le Jikungunya. Moi, je suis des ans. Tout le monde s'en fout.
Déjà, on a vu, il y avait le traitement médiatique. Hein, que ça, on a mis beaucoup de temps à savoir ce qui se passait. Sur le papier, ça se passe en France, hein, c'est un DOM, donc on a mis beaucoup de temps à savoir. Et quand on l'a su, il n'y avait pas une très bonne lisibilité au niveau des chiffres, etc. Transparence, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire le nombre de morts, etc. Mais pas simplement là-dessus. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a dit que ce n'était pas mortel. On continue à le dire, alors que bon, y a des morts. Il y a 172 morts et plus de 200 000 personnes, 230 000 personnes touchées. Et si tu veux... Les services habilités à tirer la sonnette d'alarme, bah ils l'ont fait quoi. Ils l'ont fait depuis plus de deux ans, en disant qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. Il n'y a pas eu de réaction. Je pense que s'il y avait un risque d'épidémie en France, ça ne serait pas passé comme ça. On demande la gratuité des moyens de protection. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que y a pas de réglementation sur ces produits-là. On ne sait même pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas réellement. Donc c'est libre à tout le monde d'aller acheter ce qu'on veut et surtout acheter. C'est-à-dire que s'il y avait, à mon avis, pareil, hein, s'il fallait distribuer aujourd'hui des masques pour se protéger en France, on l'aurait fait gratuitement. On va pas, enfin, tu vois. Concernant l'épidémie du chic, voilà, les gens ils vont acheter des produits. Ça veut dire les gens qui ont les moyens, quoi. Surtout pas de réglementation. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas exactement ce qui marche ou ce qui ne marche pas, donc on achète un peu ce qu'on veut. Il y a des produits qui sont conseillés, etc., mais tout est mis en vente, quoi, c'est ça le problème. Ce qui se fait en ce moment en France, c'est que les Réunionnais et d'autres domiens, des Antillais, essaient d'aider les Réunionnais, mais en faisant des collectes, etc., et en envoyant les produits. Moi, personnellement, enfin, et puis même les indigènes, en fait, on pense que c'est pas aux Réunionnais, enfin c'est pas aux Français non plus d'envoyer des moyens. Enfin, je pense que les moyens ils doivent être débloqués au niveau du gouvernement. Et ça aussi, ça c'est quand même bizarre. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui se passe en Afrique en général. C'est-à-dire que on emploie des moyens humanitaires, tu vois. C'est pas les gouvernements qui mettent la main à la poche. Et là, c'est bizarre. C'est-à-dire que là, on est en France quand même, tu vois. Enfin, on est en France, pareil, hein, sur le papier. Hein, c'est toujours. Ce qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'il ne suffit vraiment pas de faire partie de l'État français, d'être français et française pour... Enfin, vraiment, à mon avis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est essayer d'imaginer si une telle chose s'était passée en France, quelle aurait été la réaction du gouvernement.
Alors, mouvement des indigènes de la République.
Abdelaziz, membre du collectif Les Indigènes de la République.
C'est un mouvement qui a été lancé par des personnes qui sont issues des ex-colonies, enfin des gens qui ont, pour certains, réussi socialement, mais qui, malgré la réussite sociale, se rendent compte qu'il y a des discriminations permanentes, que ce soit à l'emploi, au logement, au loisir, à la santé, etc. Et donc, on s'est rendu compte, effectivement, avec le recul, et je crois que les banlieues qui flambent actuellement ne sont qu'un révélateur de ce qu'on dénonce également, c'est qu'il y a eu une sorte de continuum colonial, c'est-à-dire qu'il y a une gestion qui a été faite des gens issus des ex-colonies, qui est une gestion particulière, un régime particulier qui a été mis en place. Et pour ne citer que la politique de la ville, c'est une politique qui s'applique dans un certain nombre de quartiers en direction d'une catégorie des populations. Et c'est ces populations-là, donc on s'est dit... tout compte fait, on n'a pas le même statut que les autres citoyens dans ce pays. On est des citoyens de seconde zone, on est des citoyens effectivement qui sommes considérés comme l'étaient les indigènes à l'époque. Et l'idée de s'attribuer ce qualificatif d'indigène n'est pas non plus le fait du hasard et n'est pas un simple raccourci avec les événements historiques. C'est que on le vit dans notre quotidien. C'est-à-dire, on est perçu par la société française, c'est l'image que nous renvoie la société française et les institutions de la France. Elles nous renvoient cette image-là. en disant, ben voilà, vous pouvez vous prétendre français, vous pouvez dire que vous êtes français, vous pouvez être titulaire de la nationalité française, de la carte d'identité française, on ne vous traitera pas de la même façon. Voilà, on vous traitera toujours avec un regard de suspicion, avec une méfiance, avec un doute sur votre loyauté, un doute sur votre intégrité, un doute sur votre francité. Et ça, on peut pas le supporter. Et d'où l'idée, effectivement, de parler. Alors, c'est vrai que les sources de ce fonctionnement-là plongent bien loin dans l'histoire. Elles plongent, effectivement, dans le passé colonial de la France. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont encore aux commandes du pays, qui sont des gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Pour beaucoup, des dirigeants de l'OAS continuent à avoir encore des fonctions. La preuve, c'est qu'ils ont redynamisé depuis à peu près un an la volonté de faire un mémorial dans plusieurs villes de France à la mémoire des gens de l'OAS. Enfin, il y a une sorte de renouveau comme ça, colonial qui émerge sur la scène publique, et donc ça confirme bien nos présomptions, notre sentiment par rapport à ça.
Quant à nos chances d'insertion sociale, je préfère encore la franchise du Front National, une évidence que je pense partager par tous les sauvageons de France prêts à tout saccager. Vivre dans la hantise de se faire dégager, quand on l'extériorise, je comprends que ça puisse soulager. T'inquiète, on connaît le pédigré des gens qui aiment les immigrés analphabètes avec un fort accent. Comment rester sobre, je suis sombre comme un soir du 17 octobre. Triste événement sanglant, déjà quarantenaire. Gardez vos plaques et vos bougies d'anniversaire. Et où on brûle la vie et qui nous pousse à le faire. Regarde-moi dans les yeux, le frère est dissuasif comme une arme à feu. Écoute, on a prévu d'acheter mon silence avec les ballons de foot de l'équipe de France. T'as cru que j'étais une pute ou l'amant de ta mère. Pendant qu'on y est dans les insultes, notre histoire s'arrête à l'âge de pierre. Le poids de ces mots révèle des certitudes avec lesquelles je devais dealer pour percer dans mes études. Et si aujourd'hui ce que je chante peut vous paraître peut-être une pauvreté affligeante, quand il y a de l'agressivité en face, obligé de parler sur le ton de la menace, question de dignité, et par extension mon nom, prénom, identité.
Et par extension, mon nom, prénom, identité, pour qu'on en perde,
tout nom,
prénom, identité.
Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et ils accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.
La loi du 23 février 2005, effectivement, qui est une loi scélérate, parce que qui prouve, parce que d'un côté, on est critiqué en tant qu'indigène quand on dit il y a un continuum colonial, et pourtant, les faits démontrent qu'il y a bien un continuum colonial, parce que quand on a fait voter une loi à l'Assemblée nationale et que nos amis de la gauche ne se meuvent pas et ne saisissent pas le Conseil constitutionnel pour remettre en cause ces lois scélérates, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il faut mettre en avant, dans l'enseignement, le rôle positif des colonies. Moi, j'ai jamais connu un peuple, c'est comme si on me dit, sous la Gestapo, il faut vanter les mérites de l'occupation allemande en France. Mais on hallucine, on hallucine. C'est une armée d'occupation qui est venue en France, que quelqu'un ose en Allemagne dire on va faire voter un texte de loi qui met en avant le rôle positif de l'occupation allemande en France. Et je serais curieux de voir la réaction du peuple français. Faut arrêter. Donc effectivement, donc le continuum colonial existe bel et bien, effectivement.
Si, un aspect positif dans la colonisation française, c'est le fait que on a appris la langue française pour pouvoir décrypter ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire gober là.
Amazir Kateb, chanteur de Gnawa Diffusion.
Ça, c'est, je pense, le seul aspect positif de la colonisation. Après, c'est facile de parler d'aspects positifs parce que c'est clair que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Bien sûr qu'il y a eu des histoires d'amour entre des Français et des Algériens parce que les Français étaient en Algérie. Bien sûr qu'il y a eu des histoires fraternelles, mais ce n'est pas des histoires qui ont été orchestrées par les pouvoirs. Le pouvoir qui a colonisé était là pour prendre la terre et pour prendre les richesses. Il n'était pas là pour que Marcel y tombe amoureux de Fatima. Donc si Marcel est tombé amoureux de Fatima, ça le regarde, tu vois. C'est une histoire d'être humain. Donc voilà, je crois que si il existe, pour parler sérieusement, s'il existe quelques effets positifs de la colonisation, il ne découle pas de la colonisation. Il découle de la rencontre des peuples. Il ne découle pas de la colonisation. La colonisation, c'est la plus mauvaise façon de se rencontrer. Après, c'est pas parce qu'on se rencontre mal qu'on va forcément mal vivre. Et heureusement que les êtres humains ont la faculté de s'aimer au-delà des pouvoirs et au-delà des pays dont ils viennent. Enfin, tu vois, heureusement que chaque Français ne porte pas la politique française sur ses épaules, parce que putain, déjà ce serait un peu lourd pour lui, tu vois, pour chacun. Et heureusement que chaque Algérien ne porte pas sur ses épaules et sur sa gueule et sur, tu vois, la politique algérienne, parce que c'est pareil, je pense que c'est trop lourd et que c'est pas juste. Voilà, à mon avis, ce qui sauve l'histoire, et pas seulement concernant l'Algérie, mais ce qui sauve l'histoire, c'est les êtres humains. Mais les êtres humains au sens humain, les êtres qui savent rester humains avant tout. Voilà, c'est ceux-là qui sauvent l'histoire, et c'est ceux-là qui sauvent les tueries, les massacres et les expropriations et les vols et les viols de la colonisation. Voilà, c'est les hommes de ce pays, c'est les âmes de résistance, les gens qui ont su faire la part des choses, qui ont su, au moment où on appelait les Moudjahidines algériens, quand on les appelait terroristes, à la même époque, il y a des Français qui se rappelaient de l'époque où la Gestapo les traitait de terroristes quand ils se battaient pour la libération de leur pays. Donc heureusement qu'il y a ça, voilà. Heureusement qu'il y a cette mémoire, et heureusement qu'il y a une vraie fraternité entre les peuples. Il n'y a que ça qui sauve une histoire aussi moche, quoi. C'est moche, de toute façon c'est moche. S'ils ont besoin d'une loi pour proclamer que la colonisation a eu des effets positifs, ça veut bien dire que la colonisation a eu tellement d'effets négatifs qu'il a fallu pondre une loi pour dire « Ah mais attention, il y a eu des effets positifs, attention, on a appris au petit bougnoul à parler français. » C'est la moindre des choses. Et puis en plus, c'est faux, parce que tout le monde n'avait pas accès à l'école française, les Algériens n'avaient pas accès à l'école française. Donc le peu d'apport que la colonisation a pu amener, encore une fois, c'est pas l'appareil, c'est pas la machine coloniale qui l'a amené, c'est les individus. C'est la maîtresse d'école qui aime enseigner aux enfants et qui a envie de faire aimer une langue aux enfants et qui apprend le français aux petits Algériens avec le même amour qu'aux petits Français. C'est c'est les gens qui sont dans la transmission, c'est les chevilles ouvrières, c'est ce qui fait les rouages d'une société. C'est ça qui sauve notre histoire commune. C'est pas la reconnaissance ou non par les pouvoirs des bienfaits ou des méfaits de la colonisation, parce que même si la France aujourd'hui reconnaît les méfaits de la colonisation, au-delà de la colonisation, il y a eu encore des choses qui ont été faites qui sont aberrantes et qui sont aujourd'hui en train de pourrir le tissu social français. Donc on est en train de déplacer le débat, c'est-à-dire il y a des vrais problèmes qui découlent d'une politique très récente, c'est-à-dire les années 60, les années 70, les années 80, les années 90. Rien que sur ces 40 ans, la France a eu une gestion désastreuse de la suite de la colonisation et de la suite des colonisations, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie non plus. Tu vois. Donc, au lieu de parler de ça, au lieu de parler de ce qui est immédiat, on parle d'une époque qui paraît résolument lointaine, et heureusement qu'elle est lointaine, cette époque coloniale, heureusement qu'elle l'est, mais quelque part, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Et le néocolonialisme est en train de se mettre en place sur le dos de cet arbre qui cache la forêt. Ça veut dire, oui, on reconnaît la colonisation, oui, on reconnaît que c'est une erreur, oui, on reconnaît même les méfaits de la colonisation, mais on reconnaît aussi qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation. Comme ça permet d'asseoir la francophonie, d'asseoir l'hégémonie de la France, etc. Mais comme font les Américains, comme font les Anglais, comme font tous les anciens colons. Voilà, je pense que personne n'a lâché son fonds de commerce, quoi. Voilà, je pense qu'ils sont partis, ils ont peut-être laissé la terre, mais ils n'ont pas lâché la richesse. Les accords d'Évian, c'est que des contrats sur la richesse algérienne. Les accords d'Évian, c'est quoi ? C'est des contrats sur la main-d'œuvre, le pétrole, le gaz, le vin. Voilà, c'est ça. Ça porte sur ça, mais c'est pas très long. Hein. Voilà, ils ont mis un an à se mettre d'accord, et pour cause, parce qu'il y en avait du pognon à se partager. Donc voilà, quoi. C'est que des histoires comme ça.
rôle positif de la présence française outre-mer.
On est quand même quelques-uns à faire beaucoup de ramdam sur cette loi scandaleuse.
Nicolas Lambert, comédien, auteur de la pièce Elf, la pompe afrique.
Le 3 de février de cette année, qui impose aux professeurs d'histoire de parler de la colonisation en termes positifs. Il s'agit de génocide, il s'agit de destruction massive, il s'agit d'appropriation de biens d'autrui. Il faudrait parler en termes positifs de ces choses-là. On est effectivement dans une société qui, si elle imagine qu'elle va faire son deuil de ce qui s'est passé comme ça, simplement par deux, trois lois ou décrets, va avoir à faire face à beaucoup plus contrariant que des voitures qui brûlent dans ces banlieues.
4700 véhicules ont été incendiés, 1200 personnes arrêtées.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles.
Quand on a un ministre de l'Intérieur qui parle des enfants des anciens colonisés comme des racailles, ou le ministre de l'Intérieur du gouvernement précédent qui les appelait des sauvageons, on n'imaginera jamais employer ce type de terme à l'encontre d'autres populations. Je pense que la façon dont on traite la banlieue aujourd'hui est assez proche de la façon dont la métropole traitait les pays environnants.
Et je veux dire aux enfants des quartiers difficiles, quelle que soit leur origine, qu'ils sont tous les filles et les fils de la République.
Mon daron m'a dit, si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents. Pas facile à comprendre pour un monde de 6 ans d'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages, parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon, garder ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire, j'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages, dans les dom-tom les massacres et l'esclavage évaporé, les douleurs et les souffrances, les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe? C'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé, de me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations. Là où on entasse les Arabes et les Noirs comme de sales vulgaires souris de laboratoire. Au royaume de la manipulation et du silence, ça te parle de mixité, de mélange, d'échange et de différence, de tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience, alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense, et qu'elle est belle. Elle est belle, la France.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu, s'il l'estime utile, pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
On sort une artillerie juridique.
Abdelaziz, membre du collectif Les Indigènes de la République.
Et législative qui remonte à la guerre d'Algérie, avec ce que ça peut avoir comme symbole fort, ouais, comme blessure symbolique. Quand on dit, on a traité vos parents avec le couvre-feu, maintenant on va vous traiter vous avec le couvre-feu. Mais c'est une insulte, c'est une insulte. Je veux dire, on peut très bien prendre des mesures de vigilance, etc., mais sans parler effectivement de couvre-feu, sans faire appel à cet arsenal juridique qui correspond effectivement à une période noire de l'histoire de France. C'est-à-dire, et on sait très bien, nous, on est persuadés que la répression va continuer. Pourquoi ? Parce que le gouvernement actuel, il est incapable d'apporter les vraies solutions. Donc il est en train de faire du plâtrage. Il est soumis à des impératifs économiques, à une mondialisation qui exige de lui, qui sont de plus en plus exigeants vis-à-vis du peuple, de plus en plus répressifs. Et bien effectivement, il va devenir de plus en plus répressif. Mais on sait que c'est pas ça la solution.
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord.
L'article 4 qui a été abrogé, parce qu'il parlait de faire enseigner le rôle positif des colonies par l'éducation nationale. C'est plus la forme qui a été remise en cause. Enfin, ce qui a permis la remise en cause de l'article 4, c'est le fait qu'on demande aux enseignants de faire l'histoire, en fait. Ça. Alors qu'en réalité,
c'est sûr, la loi est toujours là, avec ces autres articles. Parce que nous, c'est pour ça que les indigènes de la République demandent l'abrogation totale de la loi. Parce qu'elle maintient la valorisation des gens de l'OAS, entre autres choses, et elle parle de processus, au lieu de parler de guerre de libération, etc. Enfin bon, un processus qui fait des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, c'est pas bon, bref.
Problème de mémoire. Des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire. Je suis aigri par l'histoire, apprendre me fait mal à la tête, j'y arrive pas, ça m'empête, je suis aigri par l'histoire. Chaque pays a ses victoires, même s'il a eu ses défaites. Mais pour cacher les défaites, on nous raconte des histoires. Je n'ai pas de terroir, j'ai des tiroirs dans la tête, accrochés comme une casquette avec des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, du coup je me répète. 1-2-1-2, microphone check, 1-2-1-2, je pars. J'ai des problèmes de mémoire, l'école a fait des siennes pour que j'apprenne et j'apprenne, mais il ne reste qu'un trou noir. Pourtant j'ai espoir qu'un jour toutes les choses me reviennent. Et que je puisse être en bon terme avec ma saleté d'histoire. Mais j'ai des problèmes de mémoire, des questions qui font des graines, des questions qui me reviennent laissées longtemps au placard. Même les défaites ont leur gloire, la gloire est une défaite. Ça dépend de l'interprète, du pays, du regard, du pouvoir. L'histoire appartient à la plus grosse gâchette. Et pour celui qui objecte, la sienne est comme un bombard, un bombard. Car dans ce monde qui brade qu'une seule facette, même l'histoire se veut exclusive, fluette et avare. L'histoire nous raconte pas l'histoire, elle nous raconte la moitié des faits. L'autre moitié s'est faite couper la langue, son silence est criard. Dans l'antre du savoir, il manque des pièces, des vérités, des versions, une comparaison, une mémoire. Il y a les tortures et les rapes, elles sont ni morales ni saines. Mais quand elles se mutent, se taisent, l'histoire a comme une palave. Je navigue sur cette palave, Iseo, matelot pêche, matelot qui de sa pêche obtient des fossiles sans trace. La France a des problèmes de mémoire, elle connaît Malcolm X, mais pas France Fanon, pas le FLN. Connaît les blacks, mais pas les noirs. Diffuse les stories, cow-boy et indienne, mais de la tragédie, cow-boy et algérienne, faut rien savoir. Il y a des choses indicibles, c'est pas de l'histoire ancienne. Les canaques, personne n'enseigne, massacre Vendée et Bretagne. Il y a des choses qui datent sur l'esclavage et son règne. On débat pas mais on fête, et la fête cache les épaves. Tout le monde dit plus jamais ça, mais c'est de là comme malsaine. Les processus restent les mêmes à l'heure où tout le monde en parle. Tout le monde en parle comme d'un cas, une exception inhumaine. Ça rend les choses si lointaines et la mémoire devient femme. La République était là, à savoir si c'est la même. Elle change de numéro d'enseigne, d'adresse et de façade. Mais elle n'ose pas gratter en elle, elle refoule et elle s'enchaîne. Et tout ce qu'on nous enseigne, c'est que l'époque était malade. C'est que l'époque était malade, mais tu parles quand bien même. La maladie viendrait d'un système, tant qu'il pèse on sera malade. Devoir de mémoire, plus jamais ça, hein, et puis quoi. Quand on garde intact les liens que la gangrène escalade. Les humains sont comme des arbres, ils ont des racines aux semelles. Pour certains ils sont lointaines et ceux-là ils en ont marre. Que de leur lointaine histoire, plusieurs versions se démêlent. Pour atteindre les deux bouts, ils font tout seuls leur grand écart. Système assimilatoire qui crée des êtres à problème. Identité en gruyère, orphelin de leur mémoire. Vu qu'on passe à la passoire, les causes de tous nos mystères. Nos causes partressent les problèmes et tout ça crée des signards. Intégration à l'entonnoir qui prône un modèle unique. Pour ceux qui ont cette saleté de chance d'être multiple, au revoir. Système assimilatoire, mise à nu des tuniques. Mise à nu à l'identique et mise du voile à l'histoire. Mais l'histoire n'est ni sacrée ni unique. Pour un pays qui se dit laïque, elle est simple, extrémiste, un dieu auquel faut croire. Le pays a du mal à regarder ses chapitres. Comme lui pluriel multiple, nous laisse près les limites. Avec des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire.
C'était Rossé sur Radio Potiwi avec problème de mémoire et ce petit e-mix Gration avec pas mal d'intervenants, notamment Nicolas Lambert, un comédien qui a mis en scène le procès Elf, un spectacle où il joue tous les personnages du procès. C'est assez impressionnant et ça démontre comment Elf, après la décolonisation, était en fait devenu, au lieu d'une entreprise, était en fait le ministère des anciennes colonies. On a entendu aussi des membres du collectif indigène de la République, comme Laetitia qui nous parlait du chikungunya, ou Abdelaziz qui nous parlait de la loi du 23 février 2005, ainsi que Amazir Kateb, chanteur de Gnawa Diffusion, qui a évoqué aussi cette loi. Donc voilà, le chikungunya, on a aussi évoqué bien sûr les émeutes de novembre qui ont été réprimés avec une loi qui datait de la guerre d'Algérie, voilà, pour différents sujets qui n'ont à première vue pas forcément grand chose à voir, mais finalement qui se regroupent tous dans le fait que la France continue de coloniser dans le traitement qu'elle fait de ses départements d'outre-mer, qu'elle continue de coloniser dans l'ancien empire, particulièrement en Afrique de l'Ouest, et puis dans les certains banlieusards qu'elle considère encore comme des indigènes. Donc on est rentré à l'intérieur, on va continuer ce Potu Info jusqu'à 16h30.
Oui, et justement pour réagir par rapport à ce qu'on vient d'écouter, Abdelaziz Bouteflika, donc le président algérien, est revenu, alors c'est un an et demi après cette fameuse loi demandant de voir le côté positif de la colonisation française, alors que cet article est passé aux oubliettes. Bouteflika, lui, il l'a toujours en tête et il a encore beaucoup de haine pour la France et pour les parlementaires français, puisqu'il est intervenu hier, avant-hier, mardi 4 juillet, c'est-à-dire la veille du 44e anniversaire de l'indépendance algérienne. Il est revenu lors d'une allocution au siège du ministère de la Défense sur les discours fallacieux que l'école de l'histoire l'histoire coloniale tente de propager. Donc ça fait référence naturellement à cette loi bien française. Pour reprendre ses paroles, il dit « une histoire erronée faite sur mesure qui exprimerait ses idées refoulées et son spectre expansionniste et vante faussement les bienfaits de la colonisation ». Donc il reproche aux Français d'avoir imposé aux Algériens pendant la colonisation leur emblème tricolore, hein, le drapeau bleu, blanc, rouge, le chant patriotique, une belle marseillaise, et les ancêtres gaulois qui n'étaient pas vraiment les ancêtres du peuple algérien, ça on en est bien conscient. Donc voilà, il est encore très très remonté contre la France, sauf contre Zidane, parce qu'il fait sa petite phrase pro-Zidane comme un peu tout le monde en ce moment, tous les gens proches de la France, en tout cas. Et puis, avant de faire un nouveau petit break, une petite info internationale qui touche un petit peu tous les pays, c'est sur la Gay Pride. Alors, il y a eu différentes Gay Pride en France le mois dernier. Il y en a eu une à Lyon, il y en a eu une à Paris, et puis il y en a peut-être ailleurs. Gay Pride qui se passe plutôt bien en France, puisque même des députés UMP sont allés manifester à Paris, discrètement certes, mais au nom de l'UMP, pour essayer de récupérer aussi une partie de la communauté homosexuelle. Alors,
il y a eu du caillassage quand même à Lyon, il y a eu quelques extrémistes qui ont balancé des cailloux sur le défilé.
Voilà, ça fait partie un peu du truc habituel de la Gay Pride, mais c'est un peu consensuel chez nous. Alors c'est en dehors des extrémistes, la droite et la gauche essayent effectivement de s'emparer du combat des homosexuels pour se faire reconnaître un petit peu, pour avoir un peu les mêmes droits que tout le monde finalement. Et ben c'est pas le cas partout. Il y a des endroits dans le monde où la Gay Pride déclenche des réactions nettement plus violentes, et notamment la Gay Pride mondiale, on va dire, qui a lieu cette année à Jérusalem du 6 au 12 août. Et là, c'est la catastrophe générale, parce qu'il faut quand même savoir que Jérusalem est une ville super réactionnaire, parce que c'est une ville très religieuse. On retrouve quand même les trois principales religions monothéistes là-bas. Et il y a eu un sondage réalisé d'ailleurs par un journaliste israélien. Il y aurait 69 des habitants de Jérusalem contre cette Gay Pride et 12% seulement d'habitants de Jérusalem pour. Donc c'est pas très rassurant. Et on voit apparaître quelque chose qui est encore moins rassurant, c'est la collusion ou la mise en commun d'un seul coup des trois religions monothéistes contre un même ennemi, c'est-à-dire là l'homosexualité. Parce qu'on a le grand rabbin séfarade d'Israël, Moshe Amar, qui s'est déjà allié avec des élus arabes, donc des élus israéliens mais arabes, pour lutter et pour faire interdire cette Gay Pride. Et il est allé jusqu'à finalement faire une lettre au pape Benoît XVI pour obtenir le soutien du pape. Donc voilà, on voit ce qui pourrait arriver de pire finalement à la liberté, c'est-à-dire que ces trois religions qui sont assez proches les unes des autres, faut en être conscient, d'abord elles ont des textes en commun, et puis ben voilà, le plus grand danger c'est le jour où elles s'allieront, le jour où elles oublieront qu'elles sont aussi un lieu pour prendre du pouvoir, et que plutôt que se partager le pouvoir, enfin, plutôt que se battre pour le pouvoir, elles pourraient le partager et se mettre ensemble. Et là, je pense que la liberté reculera beaucoup. Heureusement, c'est assez rare que ces trois religions s'unissent contre un même ennemi. En tout cas, l'homosexualité fait que cette réunion a lieu, donc il faut être vigilant. On rappelle quand même que lors d'une ancienne Gay Pride en Israël, un juif ultra-orthodoxe avait poignardé un manifestant. Donc là-bas, les juifs extrémistes sont assez nombreux. Et donc, les réactions très violentes peuvent arriver. Il faut faire attention. Le combat, qui est un combat très occidental pour l'instant, pour les droits des homosexuels, aurait sa place dans d'autres villes israéliennes sans aucun problème. Hein, Tel Aviv, des villes un peu jeunes, un peu très occidentalisées. Par contre, Jérusalem, c'est un peu l'exception dans Israël. Et ça se sent vraiment dans les réactions que ça peut engendrer.
Alors vous êtes toujours à l'écoute des Potu Info sur Radio Potu. On va continuer notre petit tour du monde de l'information. Mais avant, comme tout bon journal qui se respecte, une petite publicité.
Le programme du festival.
C'est ça, Radio Potu.
Univers Crade présente... Elle est noire, vient de l'Alabama et rayonne par un cursus universitaire exemplaire. Il est blanc, il vient du Texas, il a réussi malgré un faible QI. Ils se sont rencontrés sous les projecteurs, ils se sont liés dans l'atrocité de la guerre. Ils sont devenus complices en commettant des milliers de meurtres abominables. Ils vivent une idylle dont tout le monde rêve.
Il est son Rice, elle est sa bouche.
Oh oh.
Condoleezza Rice.
Oh, quel grand Ben Laden tu as!
George W. Bush.
Oui, je vais passer entre tes deux tours.
Dans le nouveau film qui va déchirer la planète. Bonnie and Clyde en Iran.
Armes nucléaires. Résistance armée.
Torture.
Prise d'otage.
Violence.
Sexe.
Et fin du monde.
Bonnie and Clyde en Iran, prochainement au Moyen-Orient.
Alors justement, on va partir en Iran.
Oui, on va faire deux petites news autour d'une vieille idée qui était le désarmement et qui se transforme en réarmement, hein, parce que c'est un peu l'échelle du développement des armes nucléaires en ce moment. Alors, l'Iran. Il y a eu une offre qui a été faite à l'Iran par les six grandes puissances que sont les USA, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne de coopérer avec l'Iran pour l'aider à développer son nucléaire civil en échange de quoi l'Iran s'engage à cesser toute activité d'enrichissement d'uranium. Alors ça, c'était en début de semaine. La réponse était attendue mercredi et Téhéran a botté en touche en disant que ils n'étaient pas prêts à rendre de réponse. Alors ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de réfléchir un petit peu. Donc ils n'ont pas donné leur réponse, mais ils ont conservé le rendez-vous qu'ils avaient aujourd'hui avec Javier Solana, qui est diplomate européen, pour discuter de ce sujet-là. Alors, c'est toujours le même problème avec l'Iran et avec finalement tous les pays qui développent du nucléaire civil. C'est qu'à un moment ou un autre, une fois qu'on a développé une industrie nucléaire civile, on peut passer sans grande difficulté au nucléaire militaire. Hein, il n'y a pas d'exemple actuellement de nations qui ne seraient pas passées par la case nucléaire civile pour avoir du nucléaire militaire. Alors, toutes les nations qui ont du nucléaire civil ne sont pas passées aux armes de destruction massive nucléaire. Alors, on a des exemples comme le Brésil qui ont abandonné l'idée de la bombe il y a quelques années, enfin, il y a d'autres pays comme ça, mais en tout cas c'est facile de le faire. Donc il y a une réponse internationale pour essayer de bloquer l'Iran là-dessus. Sur ce point-là, on ne va pas attaquer les réactions internationales, puisque c'est plutôt positif d'essayer d'arrêter le développement des armes nucléaires, même si nous, la France, on ne joue pas le rôle, puisqu'on a décidé de développer des nouvelles armes nucléaires, notamment en petite taille. Mais ce qu'on peut noter, c'est les deux poids, deux mesures habituels du jeu politique international, puisque certains pays développent l'arme nucléaire de manière très importante ou l'ont développée. On peut parler de l'Inde, du Pakistan. Alors l'Inde et le Pakistan, c'est en plus deux pays qui sont en conflit permanent. Ils ont développé tous les deux l'arme nucléaire. Israël, on vous rappelle qu'il a développé aussi l'arme nucléaire. Donc Israël posséderait actuellement 200 têtes nucléaires. Ces pays-là ont eu assez peu de condamnations finalement quand ils ont décidé de développer leur arme de destruction massive nucléaire. Par contre, quand l'Iran se met à avoir une idée, une ébauche de programme, là, réaction notamment et avant tout d'ailleurs des Américains, mais suivi un petit peu par tous les amis occidentaux des Américains. Alors, ce qui fait que la lutte contre les armements nucléaires a assez peu de sens et a assez peu de visibilité. Et puis, dans les pays détestés par les Américains, alors on sait que la Syrie est sortie de ces pays ennemis, on ne sait pas pourquoi. Ça reviendra dans quelques semaines, je pense, mais en ce moment, on ne parle plus de la Syrie. Mais par contre, c'est la Corée du Nord qui a refait parler d'elle hier, puisqu'ils ont fait un essai d'une... On ne sait pas bien de combien, entre 6 et 12 missiles longue portée. Donc, ils tirent ces missiles, mais à vide, naturellement. Les missiles ne sont pas chargés. Ils envoient juste des charges pour voir si ça marche. Des missiles longue portée, dont l'objectif est qu'ils atteignent un jour jusqu'aux États-Unis. Alors, réaction immédiate, naturellement, de la communauté internationale qui condamne ces tirs de missiles. Avec l'hypocrisie habituelle que les pays occidentaux, eux, font des tirs de missiles d'essai, mais que voilà, les pays comme la Corée n'auraient pas le droit de le faire. Donc, inégalité habituelle. Par contre, des pays montent au créneau un petit peu plus que les autres. Alors, naturellement, les Américains, mais c'est surtout le Japon qui craint un petit peu, puisqu'il est quand même bien plus près que les Américains de la Corée du Nord, et puis que le Japon et la Corée du Nord ne font pas bonne entente, hein, ils sont plutôt ennemis. Et donc eux, le Japon, ils ont vraiment peur. Alors ils sont montés au créneau, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, en faisant pression sur tout le monde pour essayer de faire voter une résolution contre la Corée, une résolution qui serait sûrement avant tout économique. Alors, on ne sait pas bien ce qui se passe au niveau économique, échange économique avec la Corée du Nord, hein, parce que c'est assez faible. Mais bon, la Corée du Nord répond qu'elle ne, de toute façon qu'elle n'a pas peur et que quoi qu'il arrive, malgré toutes les sanctions internationales possibles, elle continuera à ses tirs d'essai. La Corée est de toute façon toujours dans cette phase, dans cette, cette provocation permanente vis-à-vis de ses proches voisins et puis de ses lointains voisins. Même si ces dernières années, il y avait eu une tentative de réchauffement, notamment avec la Corée du Sud, une tentative qui continue d'exister, hein, mais on n'est pas encore du tout vers un chemin qui ressemblerait à une Corée unie et un peu moins communiste, ancienne école, quoi, parce que la Corée du Nord reste un pays qui fait un petit peu peur, voire très très peur. Et puis, toujours dans les infos internationales, en Amérique du Sud, il se passe beaucoup de choses depuis quelques temps. Il y a une partie des pays qui sont passés à gauche. Alors, gauche, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un peu toutes les tendances de la gauche possibles en Amérique du Sud, de la gauche populiste du Venezuela avec Chavez à la gauche la plus réformiste, notamment celle de Lula, qui est beaucoup plus réformiste d'ailleurs que ce qu'on pouvait imaginer avant son élection. Et il y avait une élection ce week-end au Mexique. Donc au Mexique, était en jeu en gros deux gros candidats. Le candidat de gauche... Andrés Manuel López Obrador et puis un candidat de droite, M. Calderón. Ils étaient au coude à coude. Et alors ce matin à 9h, après le nouveau dépouillement de 95,48% des bureaux de vote, le candidat de gauche était légèrement en avance de 0,5%. Et à midi, le dernier chiffre en tête, après qu'on a pu récupérer 97,7% des bureaux de vote dépouillés, on a la droite réactionnaire de Calderón qui serait légèrement en tête. Alors finalement, ça va jouer à l'américaine. Ils vont être obligés de recompter. Ils recomptent les bulletins un par un. Enfin, il y a un souci dans les élections au niveau international en ce moment, parce que ça arrive maintenant assez régulièrement, ces recomptages de votes. On essaye de regarder que les bulletins soient valables. Enfin, voilà, la démocratie s'écroule.
Ça arrive en France aussi, pour les primaires dans le parti politique, les Verts, où finalement, ils ont recompté une fois, c'était Yves Cochet qui a gagné. Ils ont recompté, c'était Dominique Voynet. Finalement, ils ont décidé d'annuler l'élection. Voilà.
Mais les Verts ne sont pas le meilleur exemple de démocratie. En tout cas, ils ont des soucis. Alors, pour repréciser un petit peu les choses sur le Mexique, là, on parle des deux principaux partis. Alors, le Mexique est aussi connu pour ses mouvements de résistance, notamment au Chiapas, emmené par la figure un peu légendaire maintenant du sous-commandant Marcos. Donc, les communautés zapatistes ne participaient pas directement à la campagne. Ils avaient lancé quelque chose qui s'appelle en français l'autre campagne, et dont le but était de sensibiliser la population sur des idées vraiment de gauche, mais ils ne prenaient pas parti pour aucun candidat. Il y a eu quelques problèmes de répression, donc l'autre campagne s'est arrêtée avant la fin de la campagne électorale, et puis la répression continue, puisque le Chiapas est une région militairement très occupée par des milices et puis par l'armée officielle. Et voilà, il y a eu quelques exactions ces dernières semaines. Donc voilà, c'est un pays dont on reparlera sûrement. Il faut suivre un petit peu ce qui se passe là-bas parce que les élections, c'est pas tout. Il y a aussi un enjeu au plan local, notamment dans cette région qu'est la région où se trouvent les zapatistes, le Chiapas.
Petit retour en Europe avec l'Est et la Pologne.
Oh oui, alors tu me laisses 30 secondes. Et oui, une petite news triste sur la Pologne, qui ne nous surprend pas outre mesure, puisque la Pologne est un pays qui est quand même nettement réactionnaire. On sait qu'ils n'ont pas fini. Alors justement, avec l'antisémitisme, eux, ils n'ont pas du tout fini. Et le racisme en général, je pense que c'est un gros problème de la société polonaise. C'est au Parlement européen, donc vous savez que la Pologne fait partie de l'Union européenne, donc ils ont des élus. Et ils ont des élus qui s'expriment, et donc à Strasbourg, au Parlement européen, il y a un élu qui s'appelle Roman Giertych, qui a dit, je le cite, je cite la phrase, il dit que le temps que Franco est resté maître de l'Espagne, il s'est passé des choses pas mal, que c'était plutôt quelque chose de positif, notamment. Et je cite, il a repoussé les attaques du bolchevisme contre les catholiques espagnols. Donc voilà, ce qui est inquiétant, c'est que cette droite réactionnaire aide des élus et que les élus s'expriment comme ça au sein du Parlement. Surtout que c'était dans un contexte un peu particulier, puisque il y avait eu un discours au Parlement européen saluant le succès de la transition démocratique espagnole après la mort de Franco en 1975. Donc voilà, on aurait pu attendre des réactions limites de certains Espagnols, à la rigueur, soutenant encore Franco. Là, ça vient de Pologne. Donc c'est à moitié surprenant parce que la Pologne est un pays très réactionnaire, notamment au niveau de ses élus. Mais c'est assez peu concerné par le franquisme, ce monsieur.
En tout cas, la Pologne a donc des élus au Parlement européen d'extrême droite, mais je crois que la France aussi, il me semble qu'il y a un élu FN qui est au Parlement européen. En tout cas, il y a eu Jean-Marie Le Pen pendant un temps qui était élu.
Il n'était pas tout seul d'ailleurs.
Oui. Élu européen. Par contre, la Pologne, l'extrême droite est rentrée au gouvernement il y a de ça quelques mois. Avec la Pologne, en fait, est dirigée par deux frères, les frères Kaczynski, qui ont signé une alliance avec le parti d'extrême droite. Et ce parti est rentré au gouvernement, notamment au ministère de l'Éducation nationale. Alors, ça montre bien une des dérives de l'Union européenne qu'on nous vend depuis plusieurs années. Moi, je me souviens à l'école qu'on m'a appris que l'Union européenne, c'était la garantie de la liberté, de la démocratie, la barrière contre l'extrême droite. Justement, je me souviens aussi que quand le premier exemple de l'arrivée d'extrême droite dans un gouvernement de l'Union européenne en Autriche, ça a fait quand même pas mal de bruit. Il y a eu une mobilisation dans la rue, mais aussi une mobilisation au sein même des institutions européennes.
Là, oui, mais il n'y avait pas eu de vraie condamnation quand même, avec mise en place de sanctions, de choses comme ça. Ça restait très théorique.
Ça restait très théorique. Il y avait eu quand même, bon, on accorde quelques déclarations de façade. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que il y a des éléments d'extrême droite qui sont au gouvernement en Pologne, mais aussi depuis quelques semaines en Slovaquie, où il y a eu une alliance un petit peu bizarre entre la gauche populiste et l'extrême droite qui arrive au gouvernement en Slovaquie. Et donc, aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est une des preuves que l'Union européenne n'est pas la garante de la paix, de la démocratie et des libertés, mais l'Union européenne n'est qu'une union économique que des États-Unis d'Europe.
Ouais, et alors c'est raciste, c'est fasciste, enfin on les appelle comme on veut, existe dans tous les pays d'Europe, et la France en a quelques beaux représentants, beaux énergumènes, notamment Monsieur Philippe de Villiers, qui fait partie de ces élus qui cherchent à récupérer le plus de voix possible, et un peu de partout, et en faisant un peu n'importe quoi. Alors là, il a trouvé un nouveau cheval de bataille à cause justement de la participation a priori des élus UMP à la Gay Pride à Paris, où il est monté au créneau. Il s'est dit, mais attends, s'il y a des gens de l'UMP qui commencent à défendre le droit des homosexuels, ça veut dire qu'il y a proches de l'UMP, des sympathisants UMP qui ne sont pas d'accord avec ça, et je vais essayer de les récupérer. Donc il a fait son petit mot sur le mariage homosexuel, puisqu'il est ouvertement homophobe, cet homme-là, en essayant de récupérer des élus de l'UDF, de l'UMP et du FN. Donc c'était une élocution, un communiqué officiel de M. Philippe de Villiers datant du 4 juillet. Donc méfiance, le fascisme, le racisme et tous ces phénomènes-là sont toujours existants chez nous et ailleurs.
C'est toujours le Potu Info, on va faire une petite pause musicale et on reviendra avec des informations plus nationales juste après. Desmond Dekker, King of Ska sur Radio Potu, toujours les Potu Info. On fait un petit peu d'informations jusqu'à 16h30. Alors une petite brève un petit peu plus légère par rapport à tous les sujets qu'on a abordés jusque-là, c'est la création d'une nouvelle chaîne télé. Alors c'est Chirac qui veut faire ça avant de partir. Il veut que la France se dote d'une grande chaîne télé internationale d'information, comme les États-Unis ont CNN, comme il y a Al Jazeera à Bahreïn, il me semble, ils sont basés là-bas. Et enfin bref, il veut plus que TV5, qui est un peu la vitrine de la télévision française, là il veut une chaîne d'information. Et pour ça, il a regroupé, cette chaîne d'information va être dirigée par TF1 et France 2. Donc la chaîne internationale aura une ligne éditoriale partagée entre Chirac et Bouygues. Et la grosse bataille de ces derniers jours, c'était de trouver le nom de cette chaîne. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont appeler ça France 24. Alors, il n'y a pas d'explication par rapport au chiffre 24, c'est pas la 24e chaîne ou c'est pas la 24e tentative. C'est parce qu'ils ont essayé de dire 24 avec tous les accents qui seront tous les accents des pays où sera diffusée cette chaîne. Et apparemment, c'est le chiffre, enfin, c'est le nombre du coup qui passerait le mieux dans les langues étrangères. Donc, voilà,
c'est rigolo. Totalement n'importe quoi. On rappelle que cette chaîne, justement, a eu du mal à voir le jour parce qu'il y a des pressions un petit peu de TF1 qui bloquaient au début la diffusion, qui bloque toujours la diffusion de la chaîne en France. Donc c'est une chaîne internationale qui marchera partout sauf en France, parce que Bouygues ayant une chaîne d'information française, Bouygues et TF1, ils sont donc opposés à ce que cette chaîne internationale diffuse en France. Il y a eu aussi beaucoup de discussions sur le fait qu'elle soit en français ou pas, puisque un des objectifs, c'est quand même de développer la francophonie. Vous savez, c'est une espèce de patriotisme français, là, de vouloir que tous les peuples du monde parlent notre langue. Et il y a eu déjà une grosse entorse à tout ça, puisqu'il y aura normalement 4 heures en langue en arabe, donc dans cette chaîne internationale. En tout cas, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Et voilà, cette chaîne devrait arriver un jour peut-être. On n'en est pas bien sûr, mais Chirac fait très pression pour que ça arrive avant la fin de son mandat. Mais il faut quand même plus que quelques mois pour monter une nouvelle chaîne de télé dans le monde entier, parce que c'est l'objectif. C'est donc de concurrencer les grosses chaînes américaines ou anglo-saxonnes, hein, puisque la BBC est une grosse chaîne aussi internationale, et de qualité, alors que là, on n'en est pas sûr du tout.
Toujours dans la série Patriotisme économique.
Ouais, on va revenir sur cette notion là qui a été remise, récupérée il n'y a pas bien longtemps par notre Premier ministre Dominique Galluzzo de Villepin, qui avait utilisé le patriotisme économique pour justifier la résistance au rachat de Arcelor, notre géant de l'acier, par l'Indien Mittal Steel. D'un seul coup, la semaine dernière, il a fait marche arrière, puisque finalement, Mittal Steel et Arcelor vont ne faire plus qu'un bientôt. Donc déjà, le patriotisme économique, ça s'arrête assez vite. Et puis si on regarde un petit peu ce que ça peut représenter, ce que ça peut avoir comme sens, le patriotisme économique, ça n'en a pas beaucoup. Notamment, alors à l'échelle française, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que quand on regarde les entreprises du CAC 40, donc le CAC 40, je vous rappelle, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises cotées à la bourse. Sur ce CAC 40, 40% des actions sont détenues par des fonds, essentiellement des fonds de pension, et donc essentiellement anglo-saxons. Donc déjà, l'économie française, elle n'est plus détenue qu'à 60% a priori par des capitaux dits français. Donc 60%, c'est des capitaux étrangers. Donc le patriotisme économique, il est déjà mort dans les faits. Ensuite, si on le déplace à l'échelle européenne, on se rend compte que les 100 premières entreprises européennes vont réaliser plus de la moitié de leur activité hors du marché commun à partir de 2009. Pour l'instant, on est à une quarantaine de pourcents, et donc on va dépasser les 50% de l'activité hors marché commun pour les entreprises européennes. C'est-à-dire que le patriotisme dans un monde mondialisé n'a pas vraiment de sens, pas le patriotisme économique en tout cas. Alors c'est intéressant que ce soit un ministre qui est pro-mondialisation comme Dominique de Villepin qui utilise cette notion de patriotisme économique. Mais voilà, donc, c'est juste pour rappeler que ça n'a pas de sens. Et puis le nationalisme, il s'arrête très vite quand c'est nous qui mangeons les autres. Le patriotisme, on en est très fiers de manger les autres. On ne veut pas se faire manger, mais on est très fiers de manger les autres. Et les entreprises françaises dépensent finalement énormément d'argent à l'achat d'entreprises étrangères. On rappelle par exemple qu'EDF a dépensé entre 2000 et 2002 10 milliards d'euros pour acheter des entreprises étrangères. Et EDF est devenue une énorme entreprise à l'échelle européenne, puisque EDF a 30 millions de clients français, mais ils ont aussi 15 millions de clients à l'étranger. Donc ils ont déjà une bonne partie de leur clientèle qui n'est plus en France. EDF a d'ailleurs trouvé une astuce pour acheter des choses à l'étranger, des entreprises, puisqu'ils n'avaient pas forcément autant de fonds propres que ce qu'on pouvait imaginer. Ils ont utilisé l'argent qu'ils avaient mis de côté pour le démantèlement des centrales. Donc ils ont dépensé une grosse partie de l'argent du démantèlement des centrales. Donc dans une dizaine d'années, quand il faudra démanteler, soit ils revendront, soit ils seront... on sera bien embêtés, ils seront bien embêtés. C'est pareil, hein, quand France Télécom acquiert un gros opérateur de mobile espagnol, on ne dit rien. Quand L'Oréal rachète Body Shop pour presque 1 milliard d'euros, on ne dit rien du tout. C'est des sommes énormes qui sont investies dans des achats et qui donc ne sont pas investies finalement dans la recherche et le développement en France ou dans le secteur économique français, mais ça ne pose plus du tout de problème. Puis je vais rester dans l'économie avec une chose un petit peu inquiétante sur le commerce des armes. Alors c'est vrai que si on se réfère un peu à un côté humaniste, on se positionne en général contre le commerce des armes, parce que c'est pas forcément très très sympa de savoir que ce qu'on vend, ça va tuer des petits enfants ou des adultes à un endroit dans le monde. Sauf que du point de vue économique, c'est très 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 rentable. Hein. La France est un pays qui est très fort sur les ventes d'armes. Et on a un rapport du député UMP Yves Fromion qui a été remis aujourd'hui au ministère de la Défense, donc, et à son ministre, Madame Alliot-Marie, sur le commerce et les ventes d'armes françaises à l'étranger. Alors on se dit, tient, comment il va se positionner, est-ce qu'il va dire qu'il y a un problème de conscience quand on vend des armes, est-ce que la France participe finalement indirectement à certaines guerres qui ne sont pas toujours des guerres de défense, mais des guerres offensives. Voilà. Est-ce que le fait de vendre à des régimes pas toujours respectables lui poserait problème ? Pas du tout. Pour lui, et donc sûrement pour les gens qui ont bossé avec lui, le problème de la vente d'armes en France vient qu'on n'en vend pas assez, qu'on pourrait en vendre encore plus. Et pour ça, il a trouvé trois causes qu'il faudrait donc lever, enfin qu'il faudrait modifier des choses en France pour qu'on puisse vendre encore plus d'armes de par le monde. Alors la première chose, il dit que les dispositifs à l'exportation sont très complexes et que l'État y joue beaucoup de rôle et que c'est cet État qui bloque, notamment au niveau diplomatie, l'État peut bloquer des ventes d'armes si on estime que le pays n'est pas très respectable. Et ça le gêne, ce député UMP. Ensuite, il attaque en deuxième cause la convention OCDE qui régit le commerce des armes, qui pour lui serait une entrave à ce commerce. Alors cette convention OCDE fixe un peu des règles déontologiques du commerce, notamment de pas corrompre les autres, des choses comme ça. Donc lui, ce député UMP, il pense que c'est pas une bonne chose parce que, comme classiquement hein, tous ces libéraux, toute entrave au commerce est mauvaise. Voilà, il attaque ça. Et puis enfin, il dit que la troisième cause, c'est le recul de l'influence française. Donc c'est encore un de ces nostalgiques de l'époque où la France était soit un pays colonisateur, pays colonial, soit un pays qui avait gardé une mainmise, notamment sur l'Afrique, avec ce qu'on a appelé la coopération, qui était la transformation de la colonisation en une colonisation économique qu'on appelle la coopération. Donc il regrette ça. Donc c'est juste pour montrer qu'un député UMP qui est élu et qui fait l'apologie de la démocratie, cette démocratie, ça le gêne un petit peu quand il faut faire du commerce. Et donc, il est prêt à supprimer de belles règles un peu humanistes ou démocratiques pour faire un peu plus de commerce et du commerce sur des choses qui ne sont pas banales, que sont les ventes d'armes. Voilà. Alors, si vous voulez retenir son nom, il s'appelle Yves Frémion, ce député UMP. Si vous le croisez, vous pourrez lui dire ce que vous pensez.
Petite claque, hop.
Yes. Une petite tarte à la chantilly.
À la chantilly, pourquoi pas. Alors après l'économie, un petit peu de social. Et dans la série, il n'y a pas que du foot qui se passe en Allemagne. Une grande manifestation a eu lieu aujourd'hui à Francfort. C'était un petit peu une internationale des précaires qui est en train de se constituer. Alors on se souvient qu'au printemps, il y a eu un fort mouvement social en France de lutte contre la précarité qui a abouti au retrait du CPE. Mais il faut aussi rappeler que le CPE n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase dans l'énervement des gens. À côté, il y a toujours le CNE qui est en gros la même chose qui existe toujours. Depuis, ils nous ont fait des contrats seniors qui plongent aussi les anciens dans la précarité. Et puis, cette lutte contre la précarité, elle est internationale parce qu'il y a eu des mouvements étudiants face à des lois un petit peu semblables et sœurs, notamment en Angleterre, en Allemagne, au Portugal et beaucoup en Grèce où la mobilisation a été très très forte là-bas.
Et la réaction de la police très très forte aussi ?
Ouais, avec beaucoup beaucoup de répression. Et donc de part de tous ces mouvements sociaux dits entre guillemets jeunes, est en train de se créer une sorte d'international, c'est-à-dire qu'il y a des connexions entre les différents pays européens. Ils se sont réunis aujourd'hui et ils manifestent en ce moment même à Francfort pour dire qu'il en a marre de cette casse sociale.
D'ailleurs, dans la série des casses sociales, on peut parler d'une casse sociale qui concerne un petit peu plus le monde agricole. Radio Potu est une radio implantée dans les monts du Lyonnais, certes une radio éphémère, mais on peut donner quelques chiffres qui sont issus d'un rapport fourni par l'État français sur l'état des exploitations agricoles aujourd'hui en juillet 2006. Alors en fait, ça va donc jusqu'en fin 2005, parce qu'ils font le bilan sur une année complète. Donc ils ont regardé le nombre d'exploitations agricoles professionnelles. Ils ont trouvé que depuis 2000, le nombre d'exploitations agricoles professionnelles avait baissé de 2,5%. Donc ce phénomène qui avait déjà été très important dans les années 80, dans les années 90, du baisse du nombre d'exploitations agricoles, continue à un rythme qui est relativement important, parce que 2,5% par an, ça fait quand même pas mal. Alors, en échange de ça, qu'est-ce qui se passe quand une exploitation agricole ferme ? Que se passe-t-il des terres ? Est-ce qu'on les laisse en jachère ? Est-ce qu'on les cultive ? Eh ben, les terres sont en général phagocytées par d'autres exploitations qui grossissent et on a une évolution en taille des exploitations. Donc, il y a de moins en moins d'exploitations, elles sont de plus en plus grosses et donc de plus en plus industrialisées. Par exemple, en 1988, la taille moyenne d'une exploitation agricole en France était de 42 hectares et en 2006, la taille moyenne d'une exploitation agricole est de 74 hectares. Donc il y a une vraie augmentation de la superficie. On le note aussi dans la puissance mécanique utilisée dans les exploitations agricoles, puisque cette puissance mécanique augmente. Elle augmente à travers le nombre de tracteurs, enfin d'éléments mécaniques disponibles et la puissance de ces tracteurs qui est de plus en plus importante, puisque les grosses exploitations achètent des tracteurs de plus en plus gros pour aller de plus en plus vite, pour faire de plus en plus de choses. Donc il y a une mécanisation très importante encore aujourd'hui de l'agriculture. Et ça a une conséquence sociale importante, ces regroupements d'exploitations, enfin ces rachats d'exploitations, c'est qu'on licencie énormément de travailleurs, puisque en 2000, on avait à peu près 920 000 travailleurs dans le monde agricole, et on n'en a plus que 822 000 aujourd'hui. En gros, en 5 ans, il y a eu 100 000 emplois perdus dans le monde agricole, dû à ces concentrations d'entreprises agricoles, ces concentrations de ce qu'on peut appeler maintenant plus des exploitations, mais des vraies entreprises agroalimentaires quasiment, ont plein de conséquences. Alors les conséquences sanitaires, on a pu les voir avec les différents scandales de ces dernières années, le plus gros étant bien sûr les farines animales, hein, parce qu'on nourrissait quand même des herbivores avec des restes d'animaux, on les transforme en carnassiers, avec donc ces scandales des farines animales ont entraîné le développement de ce qu'on a appelé la maladie de la vache folle, l'ESB, et il y a plein d'autres scandales qui arrivent. Il y a beaucoup d'attaques globalement contre l'agriculture dite paysanne, donc qui, elle, est beaucoup moins aidée par l'Europe, ce qui explique aussi une partie de la disparition des exploitations agricoles de petite taille. Et puis, il y a une attaque en règle contre l'agriculture paysanne et l'agriculture bio, puisque la norme bio a subi beaucoup de pression pour changer, notamment pour accepter le 0,6 ou 0,7% d'OGM, alors que le bio se veut garant de 0% d'OGM. Donc voilà, le monde agricole est en changement permanent, même si c'est un peu toujours le même depuis les années 60, c'est-à-dire une mécanisation, une augmentation de la taille des exploitations, une industrialisation et une disparition, malgré une résistance quand même qui existe, une disparition de l'agriculture paysanne. Donc voilà, juste pour rappeler, pour donner un petit dernier chiffre, les exploitations individuelles, celles qu'on appelle vraiment de l'agriculture paysanne, en 1988, c'était 9 exploitations sur 10. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 7 exploitations sur 10. Donc voilà, le chiffre est en chute libre.
Voilà, on arrive au terme de ces Potu Info. Alors je rappelle, les Potu Info, c'est de 15h à 16h encore pendant 2 jours. On a dépassé aujourd'hui parce qu'on a eu un petit problème de pluie dans ce studio, ce magnifique studio en plein air. Donc rendez-vous pour les prochaines infos demain à 15h. Et puis entre 16h et 16h30, il y aura un autre e-mix Gration.
C'est ça, tu peux dire.